100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer.
Bonjour. La montée des violences chez les jeunes en France est une réalité. Le gouvernement le reconnaît, alors que les affrontements entre bandes rivales ont fait 2 morts et plusieurs blessés graves ces dernières semaines en Île-de-France. Toumani, Lilibel, tués l'un comme l'autre à 14 ans lors de règlements de comptes entre bandes. Il y a eu l'an dernier une hausse de 24% de ces rixes sur le territoire national, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et près des 3/4 de ces violences ont eu lieu en région parisienne. Le gouvernement va déployer d'ici l'automne 600 éducateurs et médiateurs sociaux dans 45 quartiers sensibles pour reconnecter ces jeunes à la société. Éducateurs, médiateurs, ils sont en première ligne. Mathilde Ansker est allée à leur rencontre dans un quartier populaire de Paris, le 19e arrondissement.
Avec son costume cravate, Frédéric Fapani von Otrigen ne ressemble pas à un éducateur de rue. Pourtant, il dirige un club de prévention spécialisé à Paris pour la fondation OPEJ. Son terrain, le 19e arrondissement, un quartier populaire de la capitale. Sur l'année, son équipe accompagne près de 300 jeunes entre 16 et 25 ans. Pour lui, la lutte contre les violences des bandes est un travail de longue haleine.
C'est pas du one shot. Hein. On travaille pendant des mois, on approche les rues, donc on connaît les jeunes. C'est pas parce qu'il y a une risque qu'on va y aller pour découvrir. Hein. C'est un vrai maillage, des vraies relations qui sont établies. Sinon, on pourrait pas travailler cette question-là.
Un maillage qui permet aux associations de travailler sur différents niveaux.
Il y a un niveau de travail interquartier. Et après, dans les quartiers proprement dit, où on peut travailler avec des aspects collectifs, évidemment, il faut travailler après la question individuelle, face à face avec des éducateurs et avec des psychologues embarqués aujourd'hui. On a même fait aussi parfois des psys qui venaient avec nous en tour de rue.
Ces tours de rue sont essentiels pour connaître les jeunes et savoir ensuite quoi leur proposer. Pour éviter les affrontements entre bandes, l'association a décidé de jouer collectif.
On a travaillé avec un autre club de prévention qui est de l'autre côté de notre secteur qui s'appelle l'APSAGE. En fait, ils avaient des jeunes de leur secteur et d'une autre qui s'accrochaient, qui rentraient en conflit, qui étaient mêlés dans les risques. On les avait identifiés et donc on a mis en place depuis maintenant 2 ans régulièrement des chantiers éducatifs ensemble. Ben pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est plus difficile de se foutre sur la gueule avec quelqu'un quand tu as travaillé qu'un jour avec.
Sur ces chantiers, l'ennemi d'hier devient collègue et les jeunes sont rémunérés. Un moyen pour eux d'être valorisés dans leur quartier autrement que par leurs aptitudes à la bagarre. L'énergie est là, reste à la canaliser. C'est ce que tente de faire Kamel Jamal. Le Grand Calme a décidé de miser sur le futsal, une variante du football populaire dans les quartiers. Il dirige le club Paris Akassa Futsal et a monté un projet spécial pour le 19e arrondissement, le Futsal 19 United, qui voit passer une centaine de jeunes chaque année. Mais là encore, la réalité des bandes n'est jamais bien loin.
On a mis en place une académie de futsal en essayant de mixer un peu tous les jeunes des différents quartiers. Quand on a voulu introduire des jeunes à 17-18 ans qui venaient de quartiers un peu difficiles, et notamment rivaux, et on s'est vraiment rendu compte que c'était très compliqué.
Pour que l'adversaire de la rue se change en coéquipier sur le terrain, il faut donc agir plus tôt, avant même que les jeunes ne rejoignent les bandes.
C'est quand les gamins ont 6, 7, 8, 9, 10 ans, en brassant un peu tous ces jeunes qui, in fine, vont se connaître et puis vont se rendre compte, effectivement, qu'ils vivent les mêmes soit problématiques ou les mêmes joies ou les mêmes plaisirs, va faire qu'en grandissant, il y a effectivement certaines problématiques qui vont se dénouer naturellement parce que les gens se connaissent.
Faire équipe pour éviter les affrontements entre bandes, c'est donc le parti pris des associations. Mais elles ne sont pas les seules à s'être penchées sur le sujet. Au CNRS, plusieurs sociologues étudient le phénomène. Gérard Mauger est l'un d'entre eux. Pour lui, il faut s'attaquer aux raisons qui poussent les jeunes à rejoindre des bandes. Au premier rang, l'échec scolaire. Dévalorisés à l'école, les ados se regroupent et cherchent d'autres moyens pour s'affirmer.
Vers 14-15 ans, ceux pour qui ça se passe vraiment très mal, on les voit plus beaucoup à l'école, même s'ils y vont un peu. C'est un truc très frappant, ça aussi, dans toute l'histoire des bandes. C'est mes potes, c'est tout pour moi. Parce que voilà, c'est ceux qui vous reconnaissent comme étant quelqu'un qui vaut quelque chose. Et valoir quelque chose à leurs yeux, c'est valoir dans ce registre de la fraternité virile. Voilà, les mecs n'ont pas peur de se friter, de se frotter avec tous ceux qui peuvent être considérés comme étant un défi potentiel.
Un autre paramètre joue dans le phénomène, le chômage des jeunes, qui les conduit à rester plus longtemps dans les bandes.
Ils sont de plus en plus vieux dans les bandes. Moi, ça m'avait frappé, parce qu'avant, à 21 ans, c'était fini, parce que voilà, ils allaient au service militaire. Puis après, le service militaire, on se range. Hein. Là, il n'y a plus de service militaire, puis pour trouver un boulot stable et former un couple stable, c'est de plus en plus problématique.
Les perspectives pour ces jeunes s'assombrissent avec la crise sanitaire. Les confinements compliquent encore davantage l'organisation d'activités pour pouvoir sortir les jeunes des bandes.
gangster rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangster rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangster rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangster rap made me do it.
La pandémie de Covid-19 et les confinements, l'arrêt du sport, l'isolement, tout cela a une influence sur la violence des jeunes. Au Royaume-Uni, plus de 600 jeunes, parfois des enfants, ont été arrêtés l'an dernier pour des délits liés à des armes à feu. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, s'est penchée sur ces chiffres. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Le Royaume-Uni commence à avoir le recul nécessaire. Les chiffres sont là. Marie, la situation a empiré pendant la pandémie.
Mais oui, en tout, 664 mineurs ont été arrêtés depuis le début de la crise sanitaire. Comme l'a dit la police à la chaîne Sky News, certains étaient encore des enfants puisqu'ils avaient 12 ans. Dans la région des West Midlands, deux garçons de cet âge font partie de 86 mineurs soupçonnés d'avoir utilisé des armes à feu. À Londres, la police métropolitaine, la plus importante du pays, a déclaré avoir détenu 171 jeunes pour des suspicions de crimes à l'arme à feu. C'est 6 de plus qu'en 2019. Simeon Moore, qui veut qu'on le présente sous son nom d'artiste Zimbo, est aujourd'hui un travailleur communautaire dans sa ville de Birmingham, mais il a commencé à se promener avec une arme alors qu'il n'avait que 15 ans.
When I was about 10-11, I got involved in...
Quand j'avais 10-11 ans, j'ai commencé à commettre des petits délits, et puis c'est devenu plus sérieux en grandissant. Je me suis retrouvé au cœur de la guerre des gangs. À 15-16 ans, je me suis mis à porter des couteaux, des machettes et puis des haches et puis des armes à feu. Tout ça paraissait normal.
Avec la pandémie, les écoles fermées et les jeunes qui n'avaient plus aucun endroit pour se retrouver, la situation n'a pu qu'empirer, dit Simeon. Ces jeunes n'ont rien à faire et traînent donc dans les rues sans but. Selon lui, la situation est pire aujourd'hui que ce qu'il a connu dans les années 80.
C'est encore plus extrême. Quand j'étais enfant, c'était la musique et quelques films qui m'influençaient. Mais maintenant, les enfants sont exposés à la violence partout. Les réseaux sociaux, Internet, YouTube et même dans leurs écoles. Ce n'était même pas encore dans les établissements scolaires à mon époque. C'est ma génération qui a importé la violence dans les écoles.
Ça a été un sujet souvent évoqué dans les médias britanniques. Pendant les différents confinements, les criminels se sont mis à utiliser des jeunes parce que comme les écoles étaient ouvertes, ils pouvaient circuler plus facilement et passer inaperçus, ce qui était plus difficile pour les adultes.
Oui, c'est une possibilité et ça pourrait expliquer en partie l'augmentation de cette année, mais aucune étude sérieuse n'a encore été faite là-dessus, c'est encore trop récent. Le chômage et l'augmentation de la misère sociale, le manque de perspective pour des jeunes dont l'éducation a été très perturbée pendant la pandémie peut aussi jouer un rôle. Mais Simeon rappelle aussi que les jeunes ne sont pas toujours des victimes des criminels, ils sont attirés par la violence et par l'argent facile, et ça c'est dû à ce qu'il appelle la programmation mentale provenant des images et des récits de violence auxquels les enfants sont exposés au quotidien.
Marie, quelle est la réponse policière à cette augmentation des crimes chez les mineurs ?
C'est un défi pour les forces de l'ordre qui, depuis le début de la pandémie, doivent aussi gérer les nouvelles lois et règles liées au confinement. Mais beaucoup, Simeon compris, s'accordent sur le fait que la prévention est fondamentale, plus encore que la répression.
La police travaille de plus en plus avec les communautés locales, mais ils ne sont pas équipés pour gérer cette situation. Les seuls qui peuvent vraiment jouer un rôle, ce sont les locaux. Mais il faut les ressources pour ça.
Les budgets nationaux et régionaux sont souvent dénoncés comme trop chiches et les difficultés économiques renforcées par la pandémie risquent d'aggraver la situation.
Merci Marie Billon, à bientôt. En Italie, les faits d'armes des baby gangs ne manquent pas. Affrontements de bandes rivales, adolescents roués de coups, pierres lancées contre des voitures ou des bus, tout cela fait souvent la une de la presse. Ça fait des années que ça dure et aucune grande ville d'Italie n'est épargnée du nord au sud du pays. Il y a un an, notre correspondante Cécile Debarge s'est rendue à Naples. La ville est connue comme le berceau de ces groupes de jeunes délinquants qui opéreraient, dit-on, dans l'ombre de la Camorra, le crime organisé. Elle y a rencontré des jeunes qui ont choisi la musique plutôt que la rue. Un an plus tard, pour Accent d'Europe, Cécile, vous revenez sur ce projet, le Sanit Ensemble. Ça consiste en quoi exactement ?
Le Sanit Ensemble naît en 2008 dans l'un des quartiers les plus difficiles de Naples, le Rione Sanita. Il s'inspire d'une expérience menée au Venezuela quelques années auparavant, proposer aux jeunes une alternative à la rue, à l'ennui, au désœuvrement, grâce à un orchestre composé par les jeunes du quartier. J'avais rencontré deux jeunes élèves de 11 ans et une élève de 19 ans qui a intégré le projet à ses débuts.
Entrer dans l'orchestre, ça veut dire commencer une nouvelle vie. Parce que si tu restes sans rien faire, tu peux rencontrer des difficultés, traîner dans la rue et faire des bêtises. Alors jusqu'ici, grâce à la musique, tu peux te détacher de tout ça et en plus connaître de nouvelles personnes.
Je voulais apprendre un nouveau mode de vie, ne pas traîner dans la rue comme les autres enfants, apprendre à être normal, pas comme ceux du quartier qui traînent dans les rues, qui frappent les autres. Moi, je voulais être quelqu'un de gentil.
Le quartier était connu pour les fusillades, pour la guerre entre les camorristes, alors que le Sanit Ensemble, c'était un super projet qui devait naître précisément dans ce quartier, justement dans ce quartier où on disait « Ah, tu vas à la Sanita ? On va te tirer dessus ». Bon, en fait, on l'entend encore aujourd'hui, mais finalement, le quartier s'est racheté.
Cécile, un an après, où est-ce qu'on en est de ce projet ? Est-ce qu'ils ont pu continuer malgré les restrictions sanitaires ?
Après avoir fermé leurs portes pendant le premier confinement, les cours ont ensuite continué à distance, chaque enfant jouant depuis chez lui. Lorsque les enfants intègrent l'orchestre, ils reçoivent un instrument de musique qu'ils peuvent ramener à la maison. Donc ça les a aidés à continuer, à tel point qu'il y a quelques jours, c'est sur les écrans de télévision italiens qu'on a vu le Sanit Ensemble. 35 jeunes de 12 à 25 ans ont participé à l'émission « Italia's Got Talent ». Leur performance a été très applaudie et ils ont passé haut la main la première sélection. Nicolo a 22 ans, il joue du cor français et a intégré le conservatoire de Naples. Il en était à sa 11e année au sein de l'orchestre quand je l'ai rencontré et il expliquait à quel point ça l'a fait gagner en maturité.
Tu sais que tu dois étudier, que tu dois faire des efforts. Tu peux pas te mettre à étudier juste une fois par semaine et c'est tout. Ça t'aide à grandir. Quand on fait des concerts et qu'on sort du quartier, on acquiert aussi une certaine indépendance. On sait qu'on doit respecter les professeurs et qu'il y a tout un tas de règles à respecter dès qu'on sort du quartier.
Le quartier, un microcosme où il est difficile de se construire et de s'affirmer hors du groupe. Plus encore dans ces quartiers comme le Rione Sanita, où la délinquance liée à la criminalité organisée est particulièrement forte. Pourtant, en proposant un autre modèle pour les jeunes, l'orchestre a créé une certaine émulation. Chiara Malozzi est l'une des professeurs de musique de l'orchestre, elle se réjouit de voir que les concerts sont toujours très suivis.
Il y a toujours une participation très très importante des habitants. Même au quotidien, lorsque les élèves se promènent dans le quartier, on les reconnaît comme partie intégrante de cette grande famille qu'est le quartier. Il y a un sentiment d'appartenance très fort.
On l'a rappelé au début de ce reportage, Cécile, plus aucune grande ville italienne n'est épargnée par le phénomène. Est-ce qu'on retrouve un projet comme le Sanit Ensemble ailleurs en Italie ?
Pas vraiment. À Naples, le Sanit Ensemble a créé un second orchestre il y a à peine un an, à Forcella, un autre quartier difficile de la ville. Ailleurs, certains projets ponctuels ont été montés, mais pas d'une telle ampleur. Pourtant, au-delà des gros titres des journaux, la délinquance des mineurs est un vrai problème. L'Observatoire National de l'Adolescence estime qu'un peu moins de 7% des jeunes de moins de 18 ans ont déjà vécu une expérience de criminalité collective.
Demain, le 25 mars, la Grèce célèbre les 200 ans de son indépendance. C'est la musique officielle de ces célébrations que vous entendez. C'est en 1821 qu'a démarré la guerre, qui a donné naissance à l'État grec moderne, mettant fin à 400 ans de domination ottomane dans la région. Cet anniversaire nous donne l'occasion de nous pencher sur le terme de Grèce lui-même. Pour notre chronique en un mot, à Athènes, Joël Brunner.
Elles n'ont pas le même visage, pas la même allure, mais portent le même nom. Une Grèce, l'État, a 200 ans, et l'autre, la civilisation, près de 3000. La première est moderne, et l'autre dite antique. Dans l'intervalle, la région a été soumise, entre autres, aux influences romaines, byzantines ou ottomanes. Au final, la Grèce d'Homère a peu de points communs avec l'État moderne né au XIXe siècle. Malgré cela, certains liens subsistent et celui qui paraît le plus fort entre les deux époques, entre ces deux Grèces, se situe dans le langage, au cœur même des mots. Si la syntaxe a beaucoup évolué, il existe en revanche aujourd'hui de nombreuses racines et de nombreux termes communs entre la langue antique et celle de la Grèce d'aujourd'hui. Eleni Galanopoulou, enseignante à Athènes.
Ce n'est pas comme si nous étions les descendants directs des Grecs anciens, mais je pense qu'il existe une connexion, en particulier à travers la langue. Quand je lis par exemple Homère ou bien des tragédies ou des comédies antiques, il y a beaucoup de mots ou d'expressions que nous utilisons encore aujourd'hui. Pour moi, en tant que professeur de langue, c'est remarquable. Par exemple, le mot « vlakas », qui veut dire « idiot », était déjà employé quasiment sous la même forme il y a plus de 2000 ans. Et sa signification n'a pas changé. La tradition orale a voyagé à travers les mots jusqu'à aujourd'hui, et pour moi, c'est vraiment extraordinaire.
Et les idiots ne sont de loin pas les seuls à voyager dans le temps. Les idées aussi ont circulé depuis la Grèce antique jusqu'à la Grèce moderne, en faisant halte à travers le monde. Dans un entretien télévisé enregistré à la fin des années 70, l'helléniste Jacqueline de Romilly résume son admiration pour la Grèce ancienne par l'effervescence intellectuelle qui y régnait.
Ce qui nous émerveille, c'est cet élan intérieur qui fait que très rapidement la Grèce est passée d'un état de royauté primitive, de pensée archaïque, mythique, de choses proches des états que nous appellerions primitifs, à quoi ? À la démocratie, au rationnel, à la science, à la médecine, à l'histoire, à la philosophie. Les Grecs vivaient dans des petites cités à échelle humaine. Ils adoraient comprendre, discuter d'idées abstraites. Ils inventaient les mots pour ces idées.
Dans son livre « La langue maternelle », l'auteur franco-grec Vassilis Alexakis, récemment décédé, se moque lui gentiment de ce qu'il considère comme une filiation un brin exagéré que la Grèce moderne tente de revendiquer auprès de son aîné au passé jugé glorieux.
D'après les gravures du siècle dernier, Athènes n'était qu'un village en 1821, construit au pied de l'Acropole. Je crois que la décision de transformer le village du XIXe siècle en capitale a été prise pour des raisons purement sentimentales, son nom permettant d'associer la Grèce moderne à l'ancienne. L'État grec déclarait ainsi qu'il reprenait le fil d'une très vieille histoire.
Au-delà de sa capitale Athènes, s'il y a bien un lieu et un monument qui symbolisent et définissent la Grèce moderne tout entière sur la scène mondiale, c'est l'Acropole que mentionne l'écrivain. Cette colline d'Athènes surplombée par le temple du Parthénon, bâti durant l'Antiquité, au 5e siècle avant notre ère. Directrice de l'école française d'Athènes, établissement de recherche consacré à l'étude de l'hellénisme, Véronique Chankowski revient sur la naissance de ce temple après qu'une guerre a détruit l'Acropole.
Périclès, qui est le chef politique de cette époque à Athènes, profite de cette destruction pour, en quelque sorte, faire table rase du passé et promouvoir un art complètement novateur, qui va donner lieu à des innovations majeures en architecture et à des innovations majeures en sculpture. Le Parthénon, il est vraiment emblématique de ces innovations. Tout ce décor sculpté du Parthénon invente une nouvelle manière d'exprimer le langage de la mythologie.
Ironie de l'histoire, il n'est plus question aujourd'hui pour la Grèce moderne de faire table rase du passé, mais à l'inverse, d'exprimer son identité politique à travers ce même langage, inscrit dans la pierre il y a près de 2500 ans. Un état de fait illustré par la volonté récurrente d'Athènes de faire rapatrier une série de statues prélevées du Parthénon pendant la période ottomane et aujourd'hui conservées au British Museum de Londres. Et ce, afin de faire cohabiter au sein d'une mythologie contemporaine les deux Grèces, celle d'hier et d'aujourd'hui. Et en un seul et même mot.
Joël Brunner à Athènes pour la chronique en un mot dans Accent d'Europe sur RFI. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.